Bonsoir, comment convaincre d'aller plus vite vers la transition énergétique? Les entreprises, vous le savez, elles sont en première ligne, oui, sur la consommation électrique, le traitement des déchets. On a également évidemment tout ce qui est recyclage, transport des marchandises. Parfois des idées simples suffisent, du bon sens, hein. Oui, à condition qu'il n'y ait pas trop de paperasse, de réglementation. Oui, il faut convaincre aussi les collaborateurs, les actionnaires, les clients, les usagers d'en faire plus. Est-ce toujours aisé? Alors, si on a bien compris le champ des possibles de cette révolution verte, la transition énergétique est si simple. Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, rendez-vous ce soir des décodeurs de l'écho qui s'intègrent dans une série de rendez-vous initiés, proposés par la Poste Solutions Business avec l'Express, avec BFM Business, autour donc de la transition énergétique, hein, réussir sa transition énergétique ou comment transformer une contrainte en opportunité. Tiens, voilà, quelques-unes des questions qu'on va se poser avec de grands acteurs du secteur, de grands experts également. Chloé Sibulcal est avec nous, responsable environnement de tout le groupe LVMH. On reparlera du groupe LVMH, vous savez, une galaxie de marques. Guillaume Poitrinal, PDG de Woodeum, qui construit des bureaux en bois, des immeubles en bois, des tours en bois également. Mathieu Richet, directeur RSE du groupe Casino. Vous savez, le groupe Casino, c'est Monoprix, c'est Leader Price, bien sûr Naturalia, Spar, Franprix, Sherpa, voilà. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et Sophie Noël Nemo, directrice de la transition énergétique du groupe La Poste. Ça va être passionnant encore ce soir. Tiens, comment on met en œuvre cette transition énergétique? Guillaume Poitrinal, je le disais, je me posais la question justement, des idées simples suffisent parfois à condition qu'il n'y ait pas trop de paperasse, voilà, de contraintes administratives. C'est votre sentiment aussi ou pas?
Oui, c'est le sentiment. Tout le monde a envie d'être vertueux sur le plan écologique. Une fois que ce souci arrive et passe par le principe de précaution et arrive à l'Assemblée nationale et dans le ministère, les choses deviennent beaucoup beaucoup plus compliquées. Ah. Et je crois que ce soir on va parler de deux choses. On va parler d'une formidable énergie qu'on retrouve dans toutes les entreprises et d'une formidable volonté partagée par les salariés, voulue par les consommateurs, voulue par les actionnaires d'un côté, et puis de l'autre côté, malgré tout, une grande série de papiers, de codes. Le code de l'environnement, je vous conseille sa lecture. C'est un peu abscon. Ça vient s'ajouter au code de l'urbanisme. C'est plein de tas de principes. Les labels sont des labels environnementaux, en tout cas dans le secteur de l'immobilier, sont également extrêmement fournis, extrêmement compliqués. On n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de bon sens là-dedans. Et je crois qu'on devrait aussi quelque part vouloir qu'à terme, cette défense de l'environnement soit plus simple, plus compréhensible pour les uns et pour les autres, et peut-être un peu moins bureaucratique. Et
Emmanuel Lechypre, juste un mot au moment de l'accord de Paris. Donc un arsenal avait été déployé, plus ou moins contraignant, notamment pour les entreprises. En quelques mots, justement, quelles mesures? Est-ce que tout était très clair, franchement, pour les entreprises?
Bah, disons qu'il y avait trois types de mesures, hein, comme c'est souvent un peu le cas. Vous avez forcément des mesures contraignantes, hein, parce que l'idée, je vous rappelle, c'est de s'intégrer dans l'engagement qu'a pris la France, hein, de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre, donc sa consommation énergétique, réduire la part du nucléaire, augmenter la part du renouvelable, moins de gaspillage, etc. Et donc il y a effectivement des choses qui sont demandées aux entreprises. Alors il y a des choses contraignantes, hein, il y a l'audit énergétique qu'il faut absolument faire tous les 4 ans, il y a toutes les contraintes dans les locaux, si vous voulez rénover des parkings, faire des prises électriques pour les voitures électriques, faut organiser la mobilité de vos salariés, il faut réduire vos émissions de gaz à effet de serre, etc. Il y a des choses qui relèvent plutôt du changement d'habitude, qui est plutôt vertueux d'ailleurs, hein, quand il faut réduire ses déchets, quand il faut les trier, il faut limiter le gaspillage. Et puis après, il y a des points positifs, il y a des financements nouveaux qui sont accordés si vous avez des pratiques écolo. Donc, il y a, disons, beaucoup de leviers dans cette dans cette loi de transition énergétique.
Mais est-ce que c'est clair?
Voilà. Alors, est-ce que c'est clair? C'est ça la difficulté, sachant que par ailleurs, vous avez tout un tas de contraintes et de règles qui changent en permanence sur tout un tas d'autres sujets.
Chloé Sibulka, responsable environnement du groupe LVMH, c'est lisible, c'est clair à vos yeux, justement, quand on chapeaute toutes ces marques à la tête de cet énorme groupe?
Alors, pour revenir à l'exemple des audits énergétiques, nous, on avait eu une difficulté, c'est que tout ça est transposé en droit national. Donc, c'est une directive européenne transposée en droit national, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément le même seuil, pas les mêmes façons de faire, et donc on devait s'adapter pays par pays. Et donc, c'était la complexité, c'est-à-dire s'adapter pays par pays. Par contre, je pense que c'était une opportunité aussi pour mieux comprendre nos consommations d'énergie et agir. Donc je pense que oui, les normes ça provoque de la paperasse, mais ça peut être aussi des opportunités. Et pour moi, je pense que c'est simple si on trouve les opportunités. C'est-à-dire, je pense que quand on le transforme en opportunité, ça devient simple.
Voilà, on verra justement.
Est-ce qu'il faut quand même malgré tout, je crois, on parlait de simplification, mais surtout remettre un tout petit peu l'église au centre du village, si vous me permettez cette métaphore, c'est-à-dire remettre la cause principale en matière environnementale, au-dessus de toutes les autres. Le problème, c'est le réchauffement climatique. Le problème du réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, au titre desquelles, à 75%, le CO2. Et aujourd'hui, on est quand même perdu dans beaucoup, sur les labels environnementaux, on est perdu dans beaucoup, beaucoup de critères. Je ne conteste pas l'utilité de récupérer les eaux de pluie dans le bassin parisien, alors que on est quand même sur un immense lac d'eau douce.
On en manque pas.
Mais récupérer les eaux de pluie, pourquoi pas? Mais si ça doit se faire en faisant davantage d'émissions, je dis non. Quand on me dit immeuble à énergie positive, je dis pourquoi pas. Mais si pour faire votre immeuble à énergie positive, vous devez envoyer des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, je dis non. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir et remettre l'essentiel au-dessus de l'accessoire. Je suis pas sûr qu'on le fasse toujours.
Alors Mathieu Richet, le groupe Casino. Hein.
Alors sur ce débat, je pense qu'on a quand même besoin de normes et de lois pour que effectivement on fonctionne tous aussi avec le même cadre. Donc elles apportent aussi du plus pour nos entreprises. Je prends par exemple le label AB agriculture biologique. C'est bien qu'il y ait un cadre, c'est bien qu'il y ait une norme et c'est bien qu'elle soit partagée par tout le monde. Donc ces normes, elles peuvent être très positives, même si elles peuvent poser certaines contraintes, elles sont pour nous des opportunités qu'on doit pouvoir utiliser. Après, effectivement, la loi, elle a permis aussi de poser le débat de la transition énergétique et du réchauffement climatique. Donc, elle sert aussi à ça, la loi. Elle sert aussi à poser un débat. Et il est important que l'ensemble des citoyens se sentent impliqués dans ce débat et comprennent les enjeux. Alors, après, effectivement, quand on va descendre dans la mise en œuvre de la loi, c'est là où il faut essayer de faire des lois qui soient le plus facilement applicables. Mais aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, ils ont plutôt pour but d'essayer de faire progresser les acteurs, de faire prendre conscience qu'il y a un enjeu majeur qu'on doit adresser. Et aujourd'hui, voilà, on agit dans ce cadre-là.
C'est la base, voilà.
C'est la base, on agit dans ce cadre-là. À nous maintenant, en tant qu'entreprise, de transformer tout cela en opportunité, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Je vais prendre un exemple d'opportunité pour un groupe comme le nôtre. On a des toits de magasins qui sont inutilisés depuis des années.
Ouais.
Et bien, en 2007, on a décidé de créer une filiale qui s'appelle Green Yellow, qui est une filiale spécialisée dans l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et il se trouve qu'un des enjeux pour répondre au changement climatique, c'est de produire de l'électricité verte. Eh bien, on a mis en place des centrales solaires sur le toit de nos magasins. Vous allez au magasin de Toulouse, le géant Casino, à Fenouillet, à côté de Toulouse.
Oui.
Vous avez une centrale solaire qui génère plus d'électricité que ce que consomme le magasin.
Ah bon ?
Et donc là, on a réussi à faire d'une contrainte, ou ce qui aurait pu être perçu comme une contrainte, comme une véritable opportunité, générer d'électricité verte.
C'est bien pour les grandes surfaces, hein, j'imagine, pour les plus petites surfaces, les Franprix, les casinos, les Sherpas en montagne, évidemment, là, on peut...
Alors, on va pas développer les grandes centrales solaires de ce type-là, mais on va trouver d'autres moyens. Alors, sur la transition énergétique, hein, l'enjeu pour nous, c'est de réduire en amont la consommation d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle que vous consommez pas. Chez vous, vous avez intérêt à limiter votre consommation énergétique. Chez vous, votre frigidaire, par exemple, il est fermé. Dans nos magasins, en 2010, qu'est-ce qu'on a pu constater? Que l'ensemble
c'était ouvert.
De nos meubles froids étaient ouverts. Là où vous achetez le beurre, le yaourt, il n'y a pas de porte. Eh bien, on a mis des portes sur nos meubles froids. Aujourd'hui, 100% des magasins Franprix, qui est une filiale du groupe Casino, sont couverts de portes sur les meubles froids. On réduit au passage de 10 à 15% la consommation électrique de nos magasins. Donc on améliore la performance économique aussi de nos magasins grâce à ce geste. Et nos clients, surtout dans ces périodes où il fait très froid, ont gagné en confort d'achat, puisque au lieu d'avoir froid dans les magasins souvent parce que du coup l'hiver ça générait du froid, eh bien ils ont retrouvé un confort d'achat, donc ils restent un peu plus longtemps dans nos magasins.
Mais pourquoi n'y a-t-on pas pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Oui, je le disais, il faut du bon sens. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, Sophie Noël Nemo, la directrice de la transition énergétique à la Poste, que toutes les idées de bon sens, là, je reprends l'exemple juste que vient de nous donner Mathieu Richet au nom du groupe Casino, voilà, tout simplement, d'envisager de fermer les frigos. Est-ce que tout ça, ces idées de bon sens, elles sont toujours bien accompagnées par la réglementation? Est-ce que parfois ça ne se perd pas justement dans trop de paperasse, pour reprendre l'expression de Guillaume Poitrinal?
Moi, je rejoins ce que disait Mathieu Richet sur l'importance que le vote de la loi transition énergétique en 2015 et la négociation de l'accord de Paris, ces deux débats ont quand même permis d'expliciter l'urgence, la nécessité de faire une transition énergétique. Je trouve que les décrets qui sortent de la loi sont simples. Je veux dire, trier ses déchets au bureau, c'est pas compliqué. Faire des économies d'énergie, faire des audits énergétiques, ce n'est pas compliqué. Mettre en place des plans de déplacement entreprise, ce n'est pas compliqué. Alors nous, à La Poste, on a d'abord pratiqué la transition énergétique à l'époque où ça s'appelait développement durable, puisque comme chez Casino, je pense, on a fait le constat qu'on roulait beaucoup, on parcourt beaucoup de kilomètres pour distribuer le courrier, les colis tous les jours, on rentre dans les centres-villes, on connaît les problèmes de congestion, de pollution. Donc notre réponse, avant même qu'une loi...
De répression même contre les automobiles, voilà, je ferme la parenthèse pour les Parisiens.
Voilà, mais avant même que la loi nous y oblige, nous avons décidé de remplacer les moteurs diesel par des moteurs électriques pour les livraisons les centres-villes. Donc on a la première flotte électrique au monde. Première flotte électrique au monde avec des voitures 4 roues, des vélos à assistance électrique. Donc ça, c'est simple, entre guillemets. Sur le recyclage, pareil, vous savez, un employé de bureau va consommer 130 kilos de déchets par an. C'est déjà un chiffre énorme. 20% seulement de ces déchets seront recyclés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas triés à la source. C'est-à-dire qu'on va mélanger le papier, le gobelet dans lequel il reste du café. Un papier souillé ne pourra pas être recyclé. Donc là encore, c'est simple. Nous, on a équipé nos bâtiments avec des contenants qui ont permis le tri de ces déchets. Et je pense que là encore, un employeur n'a pas de raison de ne pas mettre ce tri à la source en place. C'est simple.
Ouais, alors, c'est simple. Est-ce que c'est toujours simple de sensibiliser tout le monde? Par exemple, on va revenir sur les collaborateurs, mais par exemple, le comité de direction, justement, le CODIR. Alors tiens, Chloé Sibulka, responsable environnement du groupe LVMH. LVMH, bien sûr, bon, évidemment, aux mains de monsieur Bernard Arnault, Bulgari, Chaumet, Sephora. Oui, Sephora, on parlera de Sephora, justement, sur le recyclage des déchets, toute la PLV, enfin les cartons. NSI, Louis Vuitton, Berluti, Bon Marché, Rive Gauche, Cheval Blanc, Chaumet, Givenchy, Guerlain. Voilà, bon, la panoplie, elle est énorme. Il faut déjà séduire, quelque part, convaincre les actionnaires, le conseil d'administration, le CODIR, justement. Est-ce que ça, c'est simple, c'est facile?
Alors oui, je vais pas dire que c'est facile, mais concernant Bernard Arnault, il a eu ce côté précurseur, puisque notre direction environnement a 25 ans. Donc, il y a 92, quand même, il y avait très peu de sociétés du CAC 40 qui se préoccupaient de ça. Donc, il y a eu un engagement assez tôt. Et après, oui, il faut convaincre, il faut avoir un travail de fond, régulièrement rencontrer les président. Et puis il y a des effets, encore une fois, d'opportunité. La COP 21
il y a deux ans.
Voilà, nous a ouvert un couloir de communication, de sensibilisation de nos dirigeants. Et donc on utilise comme ça ce travail de fond et puis la sensibilisation sur des sujets globaux.
Voilà, vous, c'est pareil chez Groupe Casino, monsieur Naouri, les autres dirigeants du groupe.
Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on avait une réunion du comité exécutif pendant lequel nous avons justement parlé de ces sujets-là. Nous avons parlé de l'objectif que nous avons fixé dans la rémunération variable de tous les cadres en France, dont un des objectifs, c'est justement d'incentiver tout le monde sur la réduction énergétique de nos magasins. Nous avons parlé ensuite de la politique environnementale et justement de nos objectifs à 2025 et notamment de la manière de les atteindre. Et c'est un sujet qui est extrêmement important quand on parle de la mobilisation justement des collaborateurs, c'est quelles solutions il va falloir mettre en place et est-ce qu'on va déployer les bonnes solutions? Parce qu'à chaque fois, derrière, ce sont des investissements et effectivement, il ne faut pas se tromper, notamment de technologie par exemple. Est-ce qu'on parie sur le véhicule électrique? Est-ce qu'on parie sur le véhicule de gaz naturel? Est-ce qu'on parie sur d'autres solutions demain? Et puis ensuite, on a fini la discussion et les débats sur d'autres sujets tels que le bien-être animal qui sont aussi chez nous des enjeux majeurs aujourd'hui.
Quand vous dites incentiver les collaborateurs, ça veut dire quoi? Par exemple, vous nous disiez tout à l'heure, bon ben voilà, on a fait un dispositif pour refermer les frigos. Je sais que vous installez des LED dans dans les magasins, donc il y a l'alimentation avec le soleil, donc ouais. Pour les grandes surfaces, les très grandes surfaces de casino. C'est-à-dire quoi, les directeurs de magasins, ils sont intéressés justement sur toutes les économies, les performances énergétiques qu'ils feront?
Exactement, parce que une des manières d'appréhender la transition énergétique, c'est d'impliquer les collaborateurs. Donc il faut aussi qu'ils comprennent comment ils peuvent agir. Mmh. Par les éco-gestes en magasin, on peut gagner encore 10 à 15% d'économie d'énergie. Donc effectivement, il faut que nos collaborateurs soient impliqués. Alors, un geste simple, cette fameuse porte qu'on ouvre et qu'on ferme, eh bien, il est important que le soir, elle soit fermée. Mmh. Si elle reste ouverte parce qu'un client l'a laissée ouverte, eh bien, on dépense de l'énergie. Donc, il faut que le personnel, nos collaborateurs, effectivement, pensent à refermer, prennent le réflexe de refermer ces portes si elles sont ouvertes ou d'éteindre les lumières dans les chambres froides.
Donc, il y a une sorte de quoi? De contrat de performance énergétique quelque part, finalement?
Exactement. Donc, ouais. On a fixé un objectif pour l'ensemble des managers à atteindre au niveau du groupe et une partie de la rémunération variable est indexée sur cet objectif.
Oui, Guillaume Poitrinal.
Et la prochaine marche, je reviens toujours à mon idée fixe, ça sera de calculer le CO2. Parce qu'une fois encore, la planète, elle en a rien à faire des kilowattheures au mètre carré. C'est pas son problème, ou c'est très indirect. Sa mesure, c'est le CO2 au mètre carré. Et donc, quelque part, il faudra passer derrière à un calcul encore plus fin. Donc c'est une formidable étape. Hein. Je critique pas du tout ce qui est fait. J'ai été les premiers à dire que dans le nettoyage des grands centres commerciaux, il fallait arrêter d'avoir tout le centre commercial allumé pour avoir une personne qui poussait. Vous imaginez dans les 4 temps tout ce que ça veut dire.
On va juste rappeler Guillaume Poitrinal quand il était chez Unibail Rodamco.
Voilà, donc dans les grands centres commerciaux, on s'est dit on va séquencer les phases de nettoyage. Je suis sûr que vous faites pareil avec vos géants casino aujourd'hui. Quand on fait le nettoyage, une fois que les clients sont partis, il y a qu'une partie de l'hypermarché qui est éclairée et je suis sûr que c'est formidable. Donc plein de solutions de bon sens, il faut les faire, etc. Mais au-delà de ça, ce qu'il nous manque encore, c'est la mesure de cette performance CO2. Et je vous donne juste un exemple. Je pense et je continue à penser qu'à partir de... Si on fabrique les cellules photovoltaïques avec du charbon chinois, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que on se donne bonne conscience parce qu'on dit c'est une cellule photovoltaïque, mais si une fois encore, si le bilan carbone et l'empreinte carbone est négative, je pense que c'est très négatif. Et je voudrais que chez Sephora, à côté de l'étiquette, on puisse avoir le CO2 qui est émis ou qui n'est pas émis à côté de la petite bouteille de parfum. Et comme ça, on aura le contenu CO2. Et je suis sûr que si Sephora utilise du verre recyclé au lieu d'avoir du verre de primeur, eh bien, ils pourront démontrer aux consommateurs que le contenu carbone de cette petite fiole de parfum est optimisé.
Alors, Sephora, allez-y, justement, répondez à Guillaume Poitrinal.
Alors, heureusement, Sephora fait pas mal de choses sur ce sujet-là, notamment sur le sujet CO2. Alors, ça va pas répondre directement au produit, parce que sur le produit, avec l'opération de retour en magasin des bouteilles de parfum, il y a un recyclage des bouteilles de parfum, mais ils ont mis en place, déployé tout le transport électrique du dernier kilomètre en France, et qui s'est déployé en Italie, en Espagne et en Chine. Et donc, ça avance sur le CO2. C'est clair, on est d'accord, c'est clairement un sujet. Et c'est pour ça que chez nous, on a mis en place le fonds carbone, qui donc donne une valeur à la tonne de CO2 émise sur les consommations d'énergie.
Qu'est-ce que c'est son carbone? Expliquez-nous.
Alors, le fonds carbone, c'est un outil qui permet... Donc, nous, on récupère les consommations d'énergie de toutes nos maisons. On calcule les émissions de gaz à effet de serre liées et on calcule ce qu'on appelle une contribution carbone à hauteur de 30 euros la tonne. Ensuite, ce montant doit être utilisé par les maisons pour s'équiper en équipement d'efficacité énergétique ou énergie renouvelable. Et en fait, c'est un droit à extra capex, c'est-à-dire c'est un droit d'investir plus au titre du fonds carbone.
Comme si une maison bien tenue, les capex sont tenus tout en haut de la maison.
C'est ça.
Avoir le droit à dépenser un peu plus en investissement.
Exactement.
Ça doit être un droit qui doit être apprécié.
Exactement. Ça parle à l'ensemble et ça a l'effet justement de sensibilisation. C'est-à-dire que au-delà du sujet de calculer des émissions de gaz à effet de serre évitées ou de tracer les investissements, ça implique la direction financière, ça implique l'ensemble, les directeurs de sites, par exemple, les directeurs de magasins. Donc on a cet effet d'entraînement et de sensibilisation.
Il aime ça, le directeur financier.
Arnaud sera en bois. Je voulais vous l'annoncer ce soir. Le prochain musée que fera monsieur Arnaud ne sera pas en verre et en métal, parce que Arnaud sait que le verre et le métal ne sont pas des matériaux, émetteurs de CO2. Et donc, ça sera, j'espère.
En
matériaux biosourcés, c'est-à-dire capteurs de carbone.
Oui, Guillaume Poitrinal, c'est un souhait ou c'est une réalité? Il vous a dit ça, Bernard Arnault ou Antoine Arnault?
C'est un rêve.
Ah, bah oui, parce qu'on aurait pu le dire, justement. C'est une bonne annonce. Bon, ce rêve peut devenir réalité. Alors, Mathieu Richard Casino et ensuite Sophie Noël Némo.
Pour revenir sur le CO2, c'est effectivement l'enjeu majeur. C'est de réduire réduire nos émissions de CO2 et finalement de se désintoxiquer au CO2 qu'on utilise. Et pour rejoindre ce que dit Guillaume, nous on a soutenu et mis en place l'affichage environnemental sur nos produits. Donc on a commencé par l'indice carbone qui effectivement permettait de connaître l'impact carbone du produit que vous consommez et de comparer entre différents riz et selon l'origine, selon la façon dont il a été fabriqué, le packaging, vous aviez effectivement un impact carbone très différent.
Ouais.
Cet indice carbone, il est devenu l'indice environnemental et aujourd'hui, on espère qu'effectivement, il va pouvoir se développer, s'étendre. Ça permettra aux consommateurs d'avoir une information éclairée. Et si vous me permettez, il y a un site qu'on a créé qui s'appelle mieuxproduire.fr qui vous permet d'avoir l'impact carbone et environnemental d'un certain nombre de produits à marque Casino.
Franchement, est-ce que le client qui fait ses courses dans le supermarché le samedi va prendre le temps de regarder l'impact environnemental d'un paquet de riz, il va choisir l'un plutôt que l'autre? Enfin, je me mets en situation.
Ça dépend des générations.
Oui. Bon, vous voulez dire que je suis trop vieux, c'est ça?
Non, pas du tout, je me permettrais certainement pas de dire ça.
Et je rajouterais, ça dépend aussi de la clientèle. C'est-à-dire que le client du luxe n'a pas les mêmes...
Par exemple, on sait aujourd'hui, et Franprix pourra le reconnaître, que en matière de viande, un poulet est 10 fois moins émetteur de CO2
que la viande rouge, de
gaz à effet de serre, ouais. Plus exactement, qu'un bœuf.
Bien sûr.
Si vous voulez être vertueux et que vous voulez pas devenir vegan ou veggie, vous allez chez Franprix et vous achetez un bon poulet bio qui a couru dans les champs.
Il est bien pour faire la...
Il est bien.
Voilà, mais le samedi après-midi, pour être bien avec le micro, là, comme ça, pour l'opération Point Rouge. Oui,
on a installé beaucoup de Franprix dans les constructions en bois de Guillaume. Non, effectivement, c'est la même chose pour une tomate. Si vous achetez une tomate en hiver, elle doit émettre à peu près 2400 grammes de CO2.
Oui, mais ça
si vous l'achetez...
C'est du bon sens, pas du richesse. Alors, on le sait, on n'a pas besoin d'une étiquette pour ça.
Non. En fait, aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs effectivement, ont conscience qu'il y a un lien entre ce qu'ils consomment et les émissions de CO2, mais pas tout le monde. Et après, encore une fois, il faut qu'on puisse donner des outils pour éclairer nos consommateurs, les aider à faire des choix. Pour ça, on peut aussi utiliser des applications. Alors, il y en a une qui existe, par exemple, sur la nutrition, qui s'appelle Yuka, pour faire un petit peu de pub, qui vous permet de connaître l'impact nutritionnel du produit que vous consommez. On pourra tout à fait imaginer demain que vous aurez la même information sur le CO2 ou les gaz à effet de serre, et donc d'orienter votre choix en fonction de votre désir de réduire votre impact carbone.
Sophie Noël Nemo, La Poste.
Alors moi, je voulais intervenir sur ce besoin d'éducation. Moi, j'ai une conviction intime, c'est que la transition énergétique peut démarrer au bureau, c'est-à-dire que nous sommes 13 millions de salariés dans les entreprises. Je pense que si dans le cadre de l'entreprise, on apprend à trier ses déchets à la source, on apprend à mieux consommer l'énergie, on apprend à se déplacer autrement pour venir au travail, pour rentrer chez soi, pour faire ses rendez-vous professionnels, alors sans doute comme consommateur, on sera plus intéressé à lire les étiquettes qui sont dans les magasins. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience du mode d'emploi. Je pense que la prise de conscience de pourquoi il faut agir grâce au débat Accord de Paris, transition énergétique, c'est fait. Maintenant, c'est comment je fais pour moins émettre de gaz à effet de serre. Le bureau, c'est un bon endroit et je pense que les employeurs ont une responsabilité et une opportunité.
Et c'est peut-être la plus grande modification depuis 20 ans dans le monde de l'entreprise. Il y a 30 ans plus exactement, quand j'ai commencé à travailler... On se posait pas la question de savoir si les entreprises devaient être des modèles en matière de RSE, si elles devaient être à l'avant de RSE. L'entreprise, elle subissait une réglementation. Quand il y a eu la Moco Cadiz, on a dit attention, Total, c'est vraiment pas bien, faut pas recommencer, il faut faire des pétroliers à double coque.
Total, c'était pas un peu plus tard, oui.
Exxon. Donc, mais on avait des entreprises qui étaient en défensif sur l'environnement.
Oui.
Aujourd'hui, les entreprises sont en offensif sur l'environnement.
Ouais, bien sûr.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation. On peut apporter énormément d'informations. Le défi environnemental passera par un défi de l'information.
Oui.
Bon, très bien. On va se retrouver dans un instant. La transition énergétique, est-ce si simple? On va continuer donc avec LVMH, Casino, Woodeum, La Poste et puis les établissements Le Chypre. À tout de suite sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
On parle de transition énergétique ce soir sur BFM Business, à la télé, à la radio, dans les décodeurs. Comment transformer des contraintes en opportunités pour les entreprises. Oui, la transition énergétique, est-ce si simple? On continue d'en parler avec tous les acteurs ici sur ce plateau de BFM Business. Oui. Prenons, est-ce que certaines activités sont plus réceptives ou pas à la transition énergétique? Est-ce qu'il y a des terrains plus favorables? Je vais prendre deux exemples opposés. La vente de bouteilles en plastique en hyper, imaginons chez Géant Casino avec vous, donc Mathieu Richet. Et puis la vente d'articles de luxe, alors dans la maroquinerie ou dans les joailliers de luxe, par exemple chez Tag Heuer, chez Bulgari, donc dans la galaxie LVMH. Le luxe, il se prête bien à cette notion de transition énergétique. Chloé Sibulka avec nous, responsable de l'environnement dans le groupe LVMH.
Ah, moi, je pense que c'est un des ADN du luxe. C'est-à-dire d'imaginer des produits qui utilisent des matières nobles. Donc, il a fallu regarder les façons de les produire pour justement qu'ils soient de qualité. L'artisan qui va travailler et qui va optimiser cette matière. Et dans l'idée que les produits vont durer et éventuellement vont être passés de génération en génération. Donc, l'ADN du luxe, le développement durable ou la transition énergétique est dans le luxe. Mais on a quand même la différence qu'on va avoir, nous, c'est que on va devoir donner l'inspiration. On a des produits, on travaille sur leur désirabilité. Et bien c'est pareil pour les gens qui travaillent chez nous. Il faut que au-delà de leur parler d'environnement, on leur donne de l'inspiration. Par exemple, quand on fait de l'éco-conception de boutique, c'est important pour le designer de lui dire mais regarde tous les matériaux écologiques qui existent et qui vont te donner une atmosphère différente, qui vont pouvoir te faire raconter une histoire dans une boutique. Donc nous, on est vraiment dans l'inspiration. Par exemple, je vais prendre l'exemple du pot de crème Guerlain Orchidée Impériale, qui a été le poids a été réduit de 60%. Quand le pot est arrivé en boutique, les clientes pensaient qu'il y avait moins de produits dedans. Donc il a fallu accompagner cette compréhension, et l'ensemble des équipes de vente de Guerlain sont formées à ça, savent parler d'environnement, de l'engagement de Guerlain, et donc je pense que la différence, c'est effectivement l'accompagnement du client et puis de continuer à avoir des produits inspirants.
Est-ce qu'un jour on aura du vrac, des produits de beauté en vrac?
On peut
acheter des cacahuètes en vrac,
du vin également,
donc la lessive.
On a les parfums Louis Vuitton. Donc qui sont sortis il y a récemment, qui sont en vrac, c'est-à-dire qu'on peut revenir en boutique avec la bouteille de parfum et réapprovisionner la bouteille.
Formidable.
De quelle manière justement, Chloé Sibulka, il y a cette possibilité de recycler les bouteilles de parfum? Qu'est-ce que vous apportez comme expérience client justement chez Guerlain par exemple?
Alors c'est encore une fois un exemple Guerlain, mais ils avaient mené l'expérience pilote d'avoir des recharges sur une gamme de soins, et ils associaient cette recharge, c'est-à-dire la cliente quand elle revenait en boutique avec son pot, d'abord parce que la cliente aimait garder son pot qu'elle trouvait magnifique. Et donc une conseillère passait derrière, nettoyait le pot, changeait la recharge, et pendant ce temps, une autre conseillère s'occupait de la cliente. Donc on parlait pas de moins, on parlait pas de recharge, on parlait pas d'environnement, on parlait de services en plus apportés à la cliente.
Quel service par exemple?
Un flash make-up, un thé, voilà. Donc on avait une attention à la cliente.
Alors quand on vend des... Alors là, on était dans l'environnement du luxe qui se prête apparemment bien, comme le nous le dit Chloé Sibulka d'LVMH. Chez vous, donc, le groupe Casino, je prenais l'exemple évidemment extrême
un très bon exemple. Pour réduire l'impact justement de ces bouteilles d'eau, on peut travailler sur la manière de les transporter. Je ne sais pas si vous savez, mais sur la région parisienne, 85% des livraisons se font par camion. Toujours. Et donc, vous avez ce flux de camions qui partent des entrepôts et qui rentrent dans les magasins et qui ressortent. Bon, on s'est demandé comment on pouvait essayer de réduire cet impact. Et puis, on a regardé... Paris, et on s'est aperçu qu'elle était traversée, cette magnifique ville, par la Seine, et qu'on pouvait peut-être utiliser la Seine comme moyen de transport. Aujourd'hui, on transporte l'ensemble des marchandises des magasins Franprix, enfin 50% de nos magasins sont transportés via la Seine à partir de barges qui commencent à Bonneuil-sur-Mer, sur Marne, et qui arrivent sur le quai de la Bourdonnaie au cœur de Paris. Ouais. Elle parcourt 21 km. Ouais. En faisant ça, on a évité de mettre sur la route 3000 camions, et 450 000 km ont été ainsi évités en utilisant les barges. C'est une manière assez efficace de réduire l'impact transport des bouteilles d'eau que nous transportons chaque jour pour livrer les Parisiens.
Sophie Noël Nemo, La Poste.
Alors moi, j'aimerais bien donner un exemple un peu décalé et parler du rôle que La Poste peut avoir pour activer l'économie circulaire. C'est-à-dire que nous, on a la capacité, avec nos facteurs, à aller collecter à peu près dans des bonnes conditions tout ce qui peut être recyclé. Donc je prends l'exemple du papier, qui est ce par quoi on a commencé, aller chercher dans les petites entreprises ou dans les agences de grands réseaux les petites quantités de papier pour en assurer le recyclage dans des papeteries situées en France. Aujourd'hui, on va aller chercher aussi les bouteilles en plastique. On va aller chercher les gobelets. Donc on est capable, nous la Poste, à travers nos facteurs et notre réseau de transport et de concentration, de fournir de la matière première secondaire de qualité à des industries qui vont pouvoir les transformer. Donc c'est une de nos contributions à cette transition énergétique via l'économie circulaire.
Emmanuel Le Chypre.
Non, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que s'engager dans la transition énergétique, globalement, c'est rentable. Hein. Alors, vous avez des travaux d'économistes qui vous disent que dans les deux tiers des cas, c'est rentable. Alors, c'est rentable pourquoi ? C'est d'abord rentable parce que vous faites des économies d'énergie. Hein. C'est quand même 10 à 20% de vos coûts en général. Hein. On l'a vu sur l'exemple des frigos dans les magasins. C'est tout bête, mais c'est quand même un poste considérable. C'est vrai qu'aujourd'hui, Guillaume a commencé à le dire, il y a une clientèle qui est sensible à cet argument. Hein. Il y a un sondage de Nielsen qui a été fait à l'échelle du monde entier qui dit que 55% des consommateurs sont aujourd'hui prêts à payer plus cher des produits qui prennent en compte la contrainte environnementale. On a vu que il y a plein de nouveaux business models qui, de cette contrainte, pouvaient naître, hein, sur le transport, sur la poste. Pareil, vous avez Engie qui a été se développer dans l'intelligence artificielle pour apporter des solutions énergétiques. Vous avez plein de groupes comme ça. Et puis enfin, il y a un point non négligeable, c'est que c'est aussi un plus aujourd'hui comme employeur, parce que vous avez aussi beaucoup de gens, là, y compris encore
la marque employeur, ouais.
Qui ont envie d'aller dans des entreprises qui, effectivement, donnent un peu de sens à leur démarche, et ils sont fiers de travailler pour une entreprise qui s'engage dans cette transition.
Je peux vraiment le dire, parce que j'ai créé une entreprise et aujourd'hui, qui est aujourd'hui le référent dans le bas carbone dans le monde de la promotion immobilière.
Woodéum.
Je reçois des CV chaque semaine de jeunes qui disent « je veux donner un sens à ma carrière. Je veux donner un sens à ma carrière. J'ai jamais reçu de toute ma carrière, pour le tout, autant de demandes de collaboration. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui se dit on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça pour ce qui concerne la promotion immobilière. On ne peut plus continuer à construire avec des matériaux émetteurs de carbone. Il faut passer à des matériaux stockeurs de carbone ou très bas carbone. Il faut réduire, comme on essaye de le faire chez Woodéum, divisé par 8 le nombre de camions au moment de la construction du gros œuf, ce qui est considérable.
Vous arrivez à diviser par 8 le nombre
de... Oui, absolument. Tout simplement parce que nos camions transportent 35 mètres cubes de matériaux de construction, qui sont en fait les grands voiles de bois qui viennent remplacer le béton.
Qui vont être empilés ensuite.
Malgré tout, une toupie à béton, c'est 6 mètres cubes. Vous savez que dans la toupie en béton que vous voyez traverser Paris, c'est très très peu de matériaux. Et puis en plus, c'est problématique parce que quand la toupie est prise dans l'embouteillage, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il faut surtout revenir très vite avant que le béton prenne. Parce que si le béton prend dans la toupie, cher monsieur, ça devient très problématique. Et on est en train d'inventer, là, pour le coup, on est à un point de rupture dans l'économie de la promotion immobilière et de la construction, et on est en train d'inventer tout un tas de nouveaux matériaux. Et vraiment, pour moi, c'est une grande fierté. Les bétons commencent à être bas carbone, alors qu'il y a trois ans ou il y a quatre ans, on ne parlait pas de béton bas carbone. Eh bien, l'impact de la filière bois, c'est quelque part la réponse, c'est qu'on commence à avoir des bétons bas carbone, et c'est formidable aussi.
Emmanuel Le Chypre.
Alors, il y a un point sur moi qui m'inquiète particulièrement sur tout ce qui est effectivement prise de conscience, pédagogie, etc. Donc, les étiquettes sur les produits, les yaourts, les fruits et légumes, etc. Pourquoi pas, mais il y a un sujet, et qui est même peut-être un sujet de contradiction majeure dans cette nouvelle génération, c'est l'éducation qui n'est absolument pas faite pour le coup sur le coût environnemental et énergétique de ce qu'on appelle la révolution digitale.
Et ben voilà, oui, c'est ça.
Dont tout le monde a l'impression qu'on est dans quelque chose de totalement immatériel, qui ne consomme pas d'énergie, qui ne consomme pas de matières premières. Or, il faut bien prendre conscience que les prévisions de consommation d'énergie qui sont faites pour les années à venir sont absolument délirantes, et que tous les smartphones qu'on a tous sont faits à partir de ce qu'on appelle des terres rares qui aujourd'hui sont exploitées dans des conditions qui sont bien plus destructrices pour la planète que ne l'est l'exploitation du pétrole, par exemple. Donc, et là-dessus, cette nouvelle génération qui effectivement est très engagée sur tout ça, on a l'impression que
ça passe par-dessus, ouais.
La connexion ne se fait pas finalement.
Vous avez raison, Emmanuel Schiff. C'est vrai, il y a des terres rares dans les téléphones, hein, dans les iPhones, les autres, enfin peu importe. Et puis il y a l'usage qu'on en fait. Chloé Sibulka du groupe LVMH, qu'on oublie un petit peu trop souvent justement, c'est quand on va consulter un site de e-commerce avec des images plus ou moins grandes, etc. Ça bouffe une quantité d'énergie. Racontez-nous ce que vous faites, vous, chez LVMH.
Alors, nous, on est plus aujourd'hui dans une période déjà de compréhension. Donc, on a fait mener une analyse énergétique de nos sites d'e-commerce et de nos applications qui sont sur les téléphones. Et ce qui était intéressant dans cette analyse, c'est qu'on a découvert qu'il y a encore une fois une opportunité client, puisque quand vous avez un site e-commerce où l'image est lourde, où la page met du temps à se charger, vous perdez le client, tout simplement. Et donc, on va pouvoir faire passer ce message de consommation d'énergie, puisque plus le site met du temps à se charger, plus il va utiliser votre batterie. Donc, ça veut dire que vous allez devoir le charger plus souvent. Et donc, on a pu faire passer ce message en disant, vous allez agir pour l'environnement et améliorer aussi votre expérience client. Donc, on est dans cette phase d'analyse et heureusement, on a un chef digital officer, donc Ian Rogers, qui est assez ouvert à ces sujets-là.
Et ça veut dire que quoi, par exemple, il va faire en sorte que les images peut-être se pèsent moins lourd,
oui.
Voilà, c'est ça, pour arriver plus vite et donc accessoirement, oui. Que ça consomme moins.
Après, il y a des choses plus techniques, mais par exemple, vous appelez les images des data centers en fonction de la taille de votre écran. Et donc, certaines applications appellent toutes les images d'un coup, quelle que soit votre taille d'écran. Alors que vous pouvez optimiser en disant, je repère la taille d'écran et je n'appelle que l'image qui est nécessaire.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on a eu toute la société, ce qu'on peut appeler la société de consommation, de la surconsommation, du gaspillage, etc. Guillaume l'explique très bien quand il explique ce que c'est qu'un chantier traditionnel avec tout ce qu'on gaspille comme matériaux, etc. Et là, on est rentré dans la période, où on devient beaucoup plus économe. Mais sur ce qui reste de la vieille économie, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence, on va rentrer maintenant dans une ère où on va se demander comment économiser de l'énergie sur ces nouveaux modes de consommation. Ce que vous avez dit tous les deux sur les centres commerciaux qui étaient allumés en entier, juste pour qu'on puisse les nettoyer, qu'on les allume par partie, bah, peut-être que demain, on va s'interroger effectivement sur ce que consomment les mails, ce que consomment les sites de consommation, etc. Et donc, il y aura une trajectoire dont la dérivée seconde, ça sera sans doute négative pour parler.
Il faudra mesurer. Et le e-commerce, il faudra mesurer parce qu'il y a du e-commerce vertueux et du e-commerce qui n'est pas vertueux. Si on vous amène, on fait des centaines de kilomètres pour vous amener un petit livre ou un petit objet, voilà, ça pose un problème.
Mais là, le
défi, par contre, c'est fait de façon intelligente avec des véhicules électriques, un groupage intelligent, l'utilisation du fleuve ou du rail, évidemment. Et donc, il faudra donner le contenu carbone. Je reviens toujours à mon obsession du début.
Oui, mais il faudra le donner sur le cycle complet du produit.
Carbone.
Et c'est ça qui compte. Sur le cycle complet du produit, vos panneaux photovoltaïques, il faudra prendre en compte le coût d'extraction des matières qui servent à le fabriquer et le coût de recyclage de ce panneau quand il sera terminé. Et là-dessus, il y a des progrès considérables à faire.
Alors, Chloé Sibulka.
Le défi, c'est d'expliquer. C'est-à-dire que là, quand vous allez expliquer l'ensemble du cycle de vie, quand vous allez parler de terres rares, ça ne parle pas forcément à tout le monde.
Bien sûr.
Donc, il y a un vrai besoin de pédagogie sur ces sujets-là. Et donc, je racontais que moi j'étais intervenue dans un hackathon avec des étudiants à qui je donnais ce chiffre-là qui disait en 2030 Internet consommera autant d'énergie que toute l'humanité en 2010. Et en allant voir les étudiants dans les groupes de travail, l'étudiant me dit oh, je ne m'étais pas rendu compte que Internet consommait de l'énergie. Donc en fait on a un vrai défi de sensibilisation.
Est-ce que ça va l'inciter à aller moins sur Internet, ce garçon?
En tout cas, avoir conscience. Après, est-ce qu'il y a un changement immédiat? Non, je pense pas.
Vous, Guillaume Poitrinal, votre credo, toujours, c'est faisons payer, notamment, voilà, si on va utiliser des transports qui consomment, qui polluent, qui émettent du CO2, eh ben, il faut matraquer quelque part, finalement. Est-ce que ça va être le cas aussi si j'utilise un peu trop souvent mon téléphone?
J'ai horreur des taxes, mais je ne vois pas d'autres solutions. Si on veut vraiment baisser la facture CO2, je ne vois pas. Il va falloir mettre quelque part sur un mode comme la TVA, il va falloir mettre un prix derrière cette émission et il va falloir, je pense,
quelque part, trouver le moment où cette molécule de CO2, ou ce gaz dangereux pour la planète, rejoint la cause de ce moment où ce gaz rejoint l'atmosphère. Il va falloir quelque part que cette cause soit un peu sanctionnée. Soit un peu sanctionnée. Parce qu'aujourd'hui, le problème de ça, c'est que non seulement les gens n'ont pas conscience, alors on peut donner de la conscience, etc., mais il n'y a pas de réalité. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs polluants qui vont nous coûter très très cher. Attention, on va finir par tous payer le réchauffement climatique. Hein. Soyons très clairs, il n'y aura pas de neutralité économique du réchauffement climatique. Il va coûter très cher. Mais simplement, aujourd'hui, les auteurs de ce réchauffement climatique sont dans une totale impunité fiscale et économique. C'est ça qui pose problème.
Bon, alors en attendant, pour conclure, la transition énergétique, c'est le levier de tous les changements, c'est d'une contrainte. On peut le transformer en opportunité, allez, tour de table, chacun. On commence avec vous, Chloé Sibulka, LVMH.
Ouais, clairement une opportunité. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'idée que on peut être inspiré, que c'est une source d'inspiration. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en parler aux designers, aux salariés, aux gens autour de nous. C'est-à-dire en montrant qu'on apporte quelque chose en plus. Pas une contrainte, juste de l'inspiration et des nouvelles choses, de l'innovation.
Guillaume Poitrinal.
Moi, je suis franchement, voilà, Widehom est probablement la preuve que... En changeant les modèles, on est capable de faire un groupe en 3 ans et demi qui aujourd'hui manœuvre 1,5 milliard de projets à travers la France et principalement en Île-de-France, sur les segments hôteliers, sur les segments des bureaux, sur les segments du résidentiel. Et donc voilà, avec mon associé Philippe Zivkovic, je pense que on peut aujourd'hui être quelque part un inspirateur. Nous, on est à 10 ans de la retraite, donc il faudra laisser un jour les rênes aux autres. Mais on peut être un inspirateur de cette nouvelle génération qui cherche du sens et qui doit aujourd'hui se préoccuper des questions d'émissions carbone.
Mathieu Richet, Casino.
Effectivement, une magnifique opportunité d'agir autrement. Et je crois qu'on a énormément de collaborateurs qui sont prêts justement à innover, à trouver des solutions pour répondre à ce défi-là. Et c'est important que ces collaborateurs, justement on parlait de l'engagement, c'est important que les gens qui sont engagés viennent dans nos sociétés pour nous aider justement à relever ces défis et à innover, à prendre des risques. Et c'est ça le maître mot, c'est qu'il va falloir prendre ces risques.
Emmanuel.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont on peut combiner les deux grands défis auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui, la révolution verte et la révolution digitale. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez là le signe noir, le signe blanc, le yin, le yang.
Il y a une qui est plus accessible que l'autre.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez cette révolution. Quand vous arrivez devant un salarié, la révolution digitale, elle est anxiogène. Alors que la révolution verte, elle est plutôt valorisante et rassurante. La révolution digitale, on considère que c'est une menace pour la croissance et pour l'emploi. On nous dit la révolution verte, c'est une opportunité formidable pour la croissance et pour l'emploi. Vous avez la révolution digitale qui déshumanise, qui creuse les inégalités, la révolution verte qui est censée remettre de l'humain et de réduire les inégalités. Et on voit bien que si la révolution verte n'est pas un rempart aux excès de la révolution digitale, eh bien, on s'en sortira pas non plus. Donc, c'est la façon d'articuler les deux que je trouve très intéressante. En vendant la révolution verte, on aide à une révolution digitale
accessible.
Raisonnable.
Voilà, accessible. Raisonnable. Juste. Allez, le mot de la fin, Sophie Noël Nemo, La Poste.
Évidemment, une magnifique opportunité en combinant la révolution verte et la révolution numérique. Et je dirais que nous, à La Poste, on a cette chance de pouvoir combiner le meilleur du numérique et le meilleur du monde humain. Donc, on prendra notre part dans ces deux transitions numériques et énergétique.
Super, merci d'être venus toutes et tous. Chloé Sibulka, responsable environnement du groupe LVMH. Guillaume Poitrinal, donc, tiens, guetté du côté de la défense, son projet Arboretum, ses bureaux au-dessus de Nanterre RER, c'est le PDG de Woodeum. Mathieu Richet, à la tête, donc, eh bien, du pôle RSE du groupe Casino. Emmanuel Le Chip, la librairie de l'écho tous les week-ends, bien entendu, toujours passionnant. Et puis Sophie Noël Nemo, directrice de la transition énergétique à La Poste. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On vient évidemment très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.